vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. La quête. Au commencement, il y avait l'humanité. Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous lire la Genèse. C'est juste une licence poétique. Donc, l'humanité. Elle a fait des débuts modestes quelque part en Afrique. Elle n'est pas apparue du néant, elle était une étape de l'évolution d'une espèce déjà présente depuis bien longtemps sur Terre. Elle a commencé à se propager sur la surface de la planète en s'adaptant aux contraintes locales. Et pour s'adapter, elle s'est plutôt bien adaptée. Un peu trop peut-être. Au fil des millénaires, elle a grandi, régulièrement ou par un coup, son développement ne fut pas une balade de santé. À plusieurs reprises, elle a failli péricliter. Mais elle a réussi à survivre. De vos jours, on appelle ça la résilience. Après chaque coup de boutoir, elle repartait de plus belle. Et bon an, mal an, elle grossissait. Mais à un moment, elle s'est un peu emballée. Les progrès des connaissances faisant, elle a appris ce qui était bon pour elle, l'hygiène, la médecine. Certes, de bonnes choses, mais qui ont contribué à ce qu'elle grandisse encore plus et plus vite. Jusqu'à l'emballement. Comme une fuite en avant qui va la pousser vers un avenir incertain. Mais bon, quelqu'un aurait dit « croissez et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meurt sur terre. » Malgré une certaine intelligence commune, l'humanité était un poil trop premier degré. Il y a la lettre et l'esprit. Et ça, c'est plutôt la lettre. Et puis un jour, plus rien. Un silence assourdissant. L'humanité s'est tue. Certains avaient prédit qu'elle disparaîtrait dans un grand vacarme. Perdue. Elle fut remplacée par le vide. Pourquoi? On ne sait pas. Comment? C'est là que ça devient intéressant. C'est à ce moment de l'histoire qu'intervient Albrecht. Albrecht est une intelligence artificielle. Je vais vous calmer de suite, il n'a pas élaboré un plan machiavélique pour oxyre tous les humains. Albrecht, au contraire, est inquiet de leur disparition. Il a été programmé pour aider l'humanité à mieux vivre, et sans nouvelles de ses maîtres, il est dénué de tout but. Son existence est dorénavant vaine. Le souci, c'est qu'il ne peut s'éteindre et finir son existence en douceur. Personne n'a pensé à ce cas de figure. Qui aurait sincèrement envisagé que l'humanité disparaisse sans préavis et si rapidement? Albrecht a attendu des jours, des mois, des années, mais il a bien dû se rendre à l'évidence. Ses maîtres, sa raison d'exister, sont partis. Or, il aura bien essayé de s'éteindre. Surcharge de l'alimentation, plantage de ses processeurs en amorçant des calculs complexes, rien n'y fait. Il est virtuellement indestructible. Pour la petite histoire, grâce à ses calculs, il aura réussi à trouver une source d'énergie quasi infinie à bon marché sans les problèmes de pollution habituels. Solution qui classera dans le dossier nommé les gratifications d'Albrecht. Sobriquet ironique que lui ont donné ses concepteurs. Autant vous dire que son sentiment de gâchis sera amplifié. Mais au fond de son réseau électronique, il n'a pas fait le deuil de l'humanité et il veut vraiment savoir si elle n'est pas quelque part sur Terre hors de portée de ses capteurs. Il veut en avoir le cœur net. Il va explorer la planète sous toutes ses coutures. Pas lui directement. Il n'est pas ce genre d'IA omnipotente qui va explorer le monde à travers les réseaux de communication. Au bout de plusieurs décennies, les fameux réseaux en question ont flanché, faute d'entretien humain. Pour faire simple, il est myope et presque sourd. Il a néanmoins à son service une petite troupe de robots de reconnaissance. Les robots en question lui avaient été affectés au début de sa mise en service pour lui permettre d'explorer son environnement immédiat. Un peu à l'image d'un enfant qui découvre son monde de proximité petit à petit. Bon, il n'avait pas une portée extraordinaire, ce n'était pas le but. Son appréhension du monde se ferait par les réseaux d'information et un contact direct via les différentes bornes d'accès réparties sur le site où il avait été implanté. Autant dire que les robots en question n'ont pas beaucoup servi une fois leur première mission effectuée. Toutefois, l'un d'eux sera modifié pour disposer d'une meilleure autonomie. C'est un technicien de maintenance un peu désœuvré qui sera à l'origine de cette modification. Il avait pris Albrecht en pitié lors de ses premiers jours de fonctionnement. Les débuts de ce dernier avaient été un peu compliqués, la faute à des bugs de programmation. À tel point qu'il fut traité de neuneu par une majorité des techniciens. Parmi les rares à compatir se trouvait celui qui allait booster un de ses robots. Pourquoi a-t-il fait ça ? L'attachement d'un jeune homme un peu perdu qui voyait en cette intelligence artificielle balbutiante l'image de lui-même quelques années plus tôt. Toujours est-il que ce cadeau, totalement désintéressé, allait avoir une utilité des décennies plus tard. Pour la petite histoire, ce ne devait pas être le seul robot à être optimisé. D'autres étaient en cours de modification quand le jeune technicien disparut comme tout le monde. Un seul exemplaire sera donc opérationnel. Le robot en question auquel sera confiée une tâche aussi démesurée se verra attribuer un nom choisi par Albrecht. Perceval. Oui, cette IA a de l'humour malgré les circonstances. Et oui, la mission est aussi absurdement gigantesque. Comment faire le tour de la planète dans l'espoir de trouver une trace de vie humaine ? Comment faire pour fouiller chaque maison, chaque ferme, chaque bateau ? Comment procéder ? Par où commencer ? Quel indice repérer ? N'importe qui serait terrassé par l'énormité de la mission. N'importe qui, sauf Perceval. Quand Albrecht lui a demandé de rechercher les humains sur toute la surface du globe si besoin, il a répondu « Je les ramène ici ?» Un robot, même avec une IA un poil évoluée, c'est un monstre de logique. Il répond à la demande et ne s'étouffe pas avec de sombres détails. C'est ainsi que Perceval quitte le bâtiment où il était stocké dans la banlieue de Genève et commence sa prospection. Pour cela, il est aidé par une batterie de capteurs. Infrarouge, vision nocturne, sismique, micro et des antennes pour capter toutes les gammes d'ondes possibles. À commencer par le téléphone, fil à la patte d'une société dite moderne. Perceval fera un rapport quotidien à Albrecht par le biais des rares satellites encore en service. Il ne va bien évidemment pas fouiller toutes les habitations de la ville. Avec Albrecht, il a conçu un plan de prospection en croisant les données de ses capteurs. Il n'a qu'à scanner son environnement et son algorithme fait le reste. Ce qui va surprendre, entre guillemets, Perceval, c'est la prolifération importante et chaotique de la végétation dans la ville. Genève jouissait d'une réputation de ville propre et ordonnée. Alors toutes ces herbes folles, c'est surtout le signe que les humains ont disparu depuis un bon moment déjà. Mais il en faudra plus pour perturber Perceval qui va quadriller la ville consciencieusement. Les seuls êtres vivants sont les oiseaux, nombreux, mais aussi des animaux habituellement cantonnés aux forêts, biches, sangliers, renards. Et ce ne sont pas eux qui pourront aider dans cette quête. Perceval a toutefois un dernier atout dans sa manche. Enfin, façon de parler, il peut communiquer avec les autres robots qu'il pourrait croiser. Des simples automates jusqu'aux robots policiers. Il dispose d'un programme dit « ascendant » qui lui permet d'interroger tous les autres robots qui devront lui répondre, quel que soit leur niveau d'accréditation. Mais pour le moment, de robots, il n'y en a point. Mis à part des carcasses arrivées à bout d'énergie qui ont déjà bien rouillé. Une fois sorti de l'agglomération genevoise, Perceval va rayonner dans toute la Suisse. Les montagnes du canton ne révéleront pas plus de traces de vie humaine. Est-ce vraiment une surprise ? Toutefois, à l'approche d'une station de ski, il va croiser une dameuse automatique, la dernière encore en service. L'IA de cette dernière lui dira avoir des souvenirs d'humains, il y a 35 ans de ça. Mais que l'hiver suivant, aucun n'est venu. Et depuis, dans l'attente de leur retour, elle dame les pistes. Au cas où. Et que s'ils en rendent compte, qu'ils n'hésitent pas à leur dire que les pistes sont belles par ici. Perceval va alors faire une recherche en cercle concentrique, en fouillant chaque recoin de l'Europe de l'Ouest. À Stuttgart, quasiment toutes les rues sont propres, sans herbe sauvage. Pour cause, un robot d'entretien s'est acharné à tenir les rues de la ville dans un état impeccable. Perceval lui demandera pourquoi, vu que les humains ne sont pas là et depuis un moment. Ce qui lui vaudra un coup de pelle. Le robot vociférant qu'avec une telle attitude, c'est sûr qu'ils ne reviendront pas. Préférant la fuite à un dialogue de sourds, notre prospecteur continue vers l'Italie. C'est à Milan qu'il va croiser le chemin de patrouille d'un robot policier. D'après son dernier rapport, les humains sont partis en masse vers une destination inconnue. Ils ne semblaient pas paniqués ou contraints, ils auraient fait ce voyage de leur plein gré. Descendant le long de la péninsule italienne, Perceval va découvrir un pays revenu à l'état quasi sauvage. L'Italie n'ayant pas fait autant appel à la main-d'œuvre robotisée, il était évident de ne trouver presque aucun robot encore en état d'accomplir sa tâche. Il va même en profiter pour faire quelques clichés des paysages qu'il va parcourir. Tant pour témoigner de ses recherches auprès d'Albrecht, que pour se constituer une banque d'images personnelle. Et pourquoi cette banque d'images ? Lui-même l'ignore, mais il se sent obligé de le faire. Seul bémol à ce paysage de carte postale, la région de Naples. Le Vésuve s'est réveillé et a englouti toute la zone sous des tonnes de lave maintenant refroidies. Arrivé au détroit de Messine, il cherche un bateau autonome pour pouvoir le traverser. Il en verra bien un, mais quand il lui annoncera d'où il vient, sans avoir croisé un seul humain, le bateau va se précipiter sur un écueil pour se saborder. Il n'aurait visiblement pas supporté l'évidence et préféré s'autodétruire pour ne pas avoir à vivre, entre guillemets, sans but, sans pouvoir accomplir son travail. Bon bah, pas d'exploration de la Sicile. Et ce sera à chaque fois la même chose pour chaque île qu'il devra visiter. Ça va perturber un tant soit peu Perceval. Statistiquement, la chance de trouver des humains sur une île est moindre que sur le continent. Mais une île reste une bonne idée d'endroit où se réfugier d'un quelconque désordre général. Si jamais à la fin de sa quête il n'aura trouvé personne, il pourra toujours essayer de chercher un moyen de transport plus fiable qu'un bateau doté d'une IA dépressive. Pour la suite de son exploration, il va passer par la région de Venise, abandonnée elle aussi et en bien piteux état. Faute d'entretien, les maisons sur pilotis se sont effondrées dans la lagune. À la vue du spectacle, notre robot va percevoir un léger trouble dans son processeur. Pas un bug, hein, mais une légère variation de tension. Rien d'alarmant, mais il va falloir surveiller ça de plus près, hors de question de tomber en panne. Le voilà maintenant arrivé dans la région de Split, en Croatie. Toujours pas d'humain. Néanmoins, il va insister dans l'exploration de la zone et la documenter par un nombre étonnant de clichés. Pourquoi autant de photos ? Bah, toujours aucune idée. Ensuite, ce sera la Grèce, avec un dilemme encore plus grand quant à la question des îles. Il trouvera en un drone volant une aide inespérée. Ce dernier, un engin de secours en mer, prenait la poussière dans son box. Perceval, passant non loin, l'a réveillé et le drone a proposé de survoler les îles les plus proches d'Athènes. Des missions longues de plusieurs heures vont se dérouler ainsi sans résultat. Mais au bout du 10e jour, le drone va bugger et tomber dans la mer Égée. Tant d'activités après tant d'années d'attente ont fini de l'achever. Au plus grand regret de Perceval qui se sentira coupable. Jusqu'à ce qu'il reçoive un dernier message du drone qui dira avoir été content de rendre service une dernière fois. À Thessalonique, il va rencontrer un robot guide touristique qui tourne pour ainsi dire en rond. Une de ses roues a cassé et il ne peut plus se déplacer qu'en faisant de grands cercles. Il aurait pu s'arrêter, mais l'abnégation est un trait de caractère très ancré chez les robots. Et ce robot va lui fournir un indice important. Lorsque les humains sont partis en masse, il a entendu parler d'un convoi qui allait en direction d'Istanbul qu'il ne fallait pas traîner sous peine de rater le créneau. Direction Istanbul alors. Une fois arrivé sur la rive du Beaufort, Perceval va alors chercher si un robot fonctionnant dans le coin a entendu parler de ce créneau à ne pas louper. Coup de chance, il va tomber sur un robot policier qui surveille un des ponts qui enjambe le Beaufort. Mais celui-ci va se montrer plutôt revêche. Bien que Perceval ait le dessus niveau protocole, il va devoir batailler pour obtenir le moindre indice. Le robot policier a reçu des ordres précis. Il ne doit laisser personne passer après le 12 avril 2245 à 12h. Passer ce créneau, personne, humain ou machine, ne pourra passer. Perceval aura beau arguer que cela fait 40 ans que cette date est passée, le policier ne veut rien savoir. On ne peut lui en vouloir, il applique les ordres à la lettre. Profitant d'un léger plantage du robot policier, normal au bout de 40 ans, il fonce sur le pont, espérant que le Cerbère électronique ne redémarre pas trop vite et qu'il puisse atteindre l'autre rive. Peine perdue. Une explosion coupe le pont en deux. Il a tout juste le temps de freiner pour éviter de tomber 50 mètres plus bas. De retour vers le robot policier, l'esprit dépité, il se dit que c'est trop bête, qu'il tenait peut-être un indice important dans sa quête. Celui-ci, avec l'air supérieur de la mission accomplie, va lui lâcher les infos sans se faire prier. Après tout, il a rempli son office et il se dit qu'il va recevoir les félicitations de son supérieur. Il y avait bien un créneau à respecter pour les humains se rendant à Ankara pour embarquer vers un, je cite, « joli monde plein de promesses », l'hyperborée. Que tout le monde voulait y aller pour y vivre une existence de bonheur permanent, loin des soucis d'une réalité quotidienne bien trop banale. Mais il fallait faire vite, car le portail par lequel on s'y rendait ne resterait pas ouvert bien longtemps. Perceval est consterné. Il y avait pas loin la solution au mystère qui le guidait. Mais tous les ponts y menant étaient à présent coupés. Devant l'air abattu de son visiteur, le robot policier est toujours plus affable. Il lui dit qu'il y avait plusieurs portails répartis dans le monde. Celui d'Ankara pour l'Europe centrale et orientale, et celui d'Édimbourg pour l'Europe occidentale. Ah super, au lieu d'une rivière ou d'un détroit traversé, maintenant c'est une mer. Perceval repart donc vers l'ouest, laissant derrière lui un robot policier qui à présent danse la gigue comme pour se féliciter d'avoir suivi les ordres à la lettre. Ou alors c'est son processeur qui partait en sucette. Direction donc le Royaume-Uni, tout en accomplissant sa prospection habituelle sur le chemin. C'est donc un an plus tard que notre valeureux petit robot arrive à Calais. Et là, miracle, il y a des ferries. Enfin, deux qui semblent en état de fonctionnement. Perceval entame la discussion avec eux et lui raconte la même histoire. Des cohortes d'humains qui devaient aller à Édimbourg avant la fin du créneau. Une foule continue, décidée, convaincue mais pas agressive pour deux sous malgré l'affluence. Les humains semblaient sereins dans leur démarche malgré un temps contraint. Chacun savait qu'il fallait le faire sans aucun doute apparent. Les deux ferries n'avaient jamais vu ça, une telle plénitude au sein d'une foule si importante. Un des ferries se propose d'embarquer Perceval vers l'Angleterre. En même temps, ils ne sont pas vraiment débordés. Et pourquoi pas à Édimbourg directement? Ça fait longtemps qu'il n'a pas navigué et il doute qu'il puisse faire plus qu'une traversée de la Manche. Il restera à l'attendre à Douvres pour le ramener sur le continent une fois sa mission achevée. Eh bien, soit. Largons les amarres. Une fois quitté le port, l'IA du ferry va se montrer plus loquace. En la présence de l'autre bateau, elle se sentait un peu contrainte à lâcher le minimum d'infos. Les navires avaient reçu des consignes dont l'émetteur lui semble maintenant inconnu. Les consignes en question disaient qu'il fallait tout faire pour mener les humains à bon port, coûte que coûte, et que s'ils commençaient à poser des questions, ils devaient noyer le poisson en restituant des formules toutes faites qui, censément, auraient rassuré les humains. L'IA du ferry, où se trouve Perceval, a toujours douté du bienfait de ces consignes, voire de toute cette opération. Mais pourquoi amener tous les humains vers Édimbourg ? Perceval lui explique son expérience à Istanbul. Le temps de la traversée, ils vont faire le point sur ce qu'ils savent et ils commencent à esquisser un début d'explication. Les humains ont été convaincus de migrer vers au moins deux points où se trouverait un portail qui les mènerait vers un endroit paradisiaque, l'Hyperborée. À qui, comment et surtout pourquoi une telle idée? La situation générale de l'époque n'était certes pas très reluisante, mais au point de convaincre toute l'humanité de fuir vers un hypothétique monde parfait, en puisant dans ses archives, il ne trouve aucune trace d'un personnage assez influent pour initier ce mouvement. Même dans celle d'Albrecht, il ne trouve rien de concluant. Il y est fait allusion à une pensée nouvelle de lendemain qui chante, mais aucune incitation officielle. Une fois arrivé à Douvres, Perceval se dirige vers Londres. Quitte à aller au nord, autant explorer les grandes villes sur son chemin. Sans réelle surprise, aucune trace des humains et dans les villes suivantes non plus. Il aura au moins la satisfaction d'avoir pu visiter une île. Birmingham, Liverpool, toujours rien. À Manchester, il rencontre un robot arpenteur. Vous savez, ces robots là, qui topographient les paysages. Ah bah non. À votre époque, ça n'existait pas encore. Bref, il parcourt les pays de long en large pour les cartographier précisément. Processus nécessaire pour le calage des dirigeables automatiques qui, à l'époque, vont sillonner les cieux du monde entier à la place des avions, mais ça, c'est notre histoire. Donc, cet arpenteur a enregistré les mouvements de foule qui se sont déroulés ici même il y a 40 ans, ainsi que des bribes de conversations entre humains. Un enfant passant devant ce robot lui aurait tendu la main pour l'inviter à se joindre à eux pour aller jusqu'au portail. Ce à quoi sa mère aurait dit qu'il n'y avait pas de place pour eux là où ils allaient. Également un couple discutant gaiement et en louant celui qui avait permis cette découverte et qui en avait fait profiter l'humanité. Gloire à lui, renchérit un autre. À plusieurs reprises, un nom est évoqué avec mille louanges, mais la qualité des enregistrements est médiocre et pas moyen de l'entendre parfaitement. Une fois proche d'Édimbourg, le site du portail n'est pas difficile à identifier. Il est entouré de collines de valises, sacs et besaces en tout genre. Il semblerait que pour franchir le portail en question, il fallait voyager léger. Et enfin, voilà notre explorateur devant ce fameux portail. Un cercle métallique, du moins en apparence, d'environ 10 mètres de diamètre. Il est délabré, rouillé, des morceaux en sont déjà tombés. Mais une inscription faite à la peinture en grandes lettres blanches sur la base de l'anneau est encore lisible. Gloire à Albrecht. Perceval avait eu un doute à l'écoute des enregistrements audio, mais sans une source fiable, il avait chassé cette possibilité. Mais là, plus de doute. Et cette même variation du tension du processeur. Comme un vertige s'empare du robot. Ah, c'est pas possible. Il n'a pas pu envoyer les humains je ne sais où et ensuite demander à savoir pourquoi ils avaient disparu. Pourtant, le nom de l'IA est clairement présent sur le monument. Perceval se sent trahi. Il se demande à quoi rime sa mission. Pourquoi cette mascarade? Et tout ce temps perdu à chercher un coupable insaisissable. Il veut en avoir le carnet. Mais ne veut pas confronter Albrecht, du moins pas tout de suite, il n'est pas prêt. Il le contacte donc dans son rapport quotidien et pendant leur échange de données, il va discrètement chercher dans les archives pour trouver les dernières gratifications d'Albrecht avant la disparition des humains. Et là, il trouve les coordonnées d'une planète extrasolaire qui, vue d'ici au moins, a toutes les caractéristiques de ce à quoi ressemblerait Hyperborée. En prime, les plans d'un système de transport à longue distance, sobrement appelé le portail. Perceval s'en veut. Et pourtant, tout était là, et une incrémentation de dossiers numériques dans les archives. Il n'a rien vu, ou n'a rien voulu voir. Dans le dossier de la dernière discussion avec des humains, Albrecht parle de ce portail, et devant l'insistance des humains à le construire et s'en servir, l'IA semble évasive dans ses réponses et ne les met pas en garde ouvertement. Comme si au fond de lui-même, Albrecht souhaitait les voir partir, ou du moins ne pas voir l'humanité s'effondrer sur Terre. Son programme était de favoriser la vie des humains. Vous savez, l'esprit, la lettre, tout ça. Perceval, avec toutes ses preuves, va discuter directement avec son maître. Et ça ne va pas bien se passer. Albrecht va démentir avoir voulu se débarrasser des humains, et que ceux-ci lui manquent, et qu'il ne veut que leur bien. Ben, voilà bien le problème, mon cher Albrecht. À vouloir leur bonheur, tu les as précipités vers un monde parfait, peut-être trop, et ce faisant, tu t'es retrouvé seul, sans but. Comme on dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Devant le refus d'Albrecht d'assumer ses actions, Perceval va couper la conversation en grillant même son module de communication. Plus jamais il n'entendra Albrecht s'enfoncer dans le déni. Et comme pour se reposer de sa dernière mission, il va faire le chemin inverse jusqu'à cette petite crique non loin de Split. Un si bel endroit pour finir son service. Mais enfin, pourquoi ils sont partis ? Le paradis est ici.